voulions causer avec Yolaine parce que déjà en Ontario, ça fait 10 ans qu'il y a une loi cadre, loi que de plus en plus de voix demandent au Québec. Et tout en vous remerciant des minutes que vous nous allouez, Yolaine, j'ai envie de vous demander comment va le procédé de l'installation de la loi cadre alors que vous êtes à mi-parcours de ce processus de 20 ans?
Mais ça va très bien.
Ah oui, à
ça
ce
va bien.
point-là.
Écoutez, la loi a été adoptée en 2005, mais vraiment les travaux ont commencé à partir de 2010, où est-ce que les premières dates limites, les dates de conformité sont arrivées. Je dis que ça va bien parce que ça touche tous les niveaux. On parle de tous les processus de dotation, d'embauche, formation, les approvisionnements, la production de matériel scolaire. Je travaille dans une université. Mmh. Les bibliothèques, l'enseignement, le transport, les communications, la construction. On parle d'une loi qui touche en profondeur, qui va dans les politiques, les pratiques, les procédures de toutes les organisations publiques, privées, à but non lucratif en Ontario qui ont un employé et plus. Alors, vous pouvez juste vous imaginer l'ampleur du travail. Alors, le fait qu'on en parle aujourd'hui, le fait qu'on a fêté le dixième anniversaire cette année, et le fait qu'on parle d'un changement de paradigme vraiment dans la société. Alors, un pas, le fait que tout le monde ait fait au moins un pas et dans la même direction, c'est fantastique. C'est vraiment une période extrêmement excitante au niveau des droits des personnes en situation de handicap, mais aussi pour tout le monde, parce que ça sert à tout le monde aussi.
Vous parlez d'entreprises d'un employé et plus. Je regarde ici dans mes notes, on parle de 360 000 entreprises qui seraient touchées, donc c'est vraiment là, mur à mur.
Oui.
Maintenant, bon, il y a une loi, il y a son application, il y a ses effets également. Est-ce qu'on voit des différences? Est-ce qu'elle a des dents, cette loi-là? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de cette loi-là?
Ben, les gens qui ont, au départ, juste pour revenir un peu en arrière, les normes ont été établies. Ça a pris des années. Ça a pris au moins 5 ans pour déterminer les normes. Alors, ils ont mis des gens de l'industrie, des gens du gouvernement, des usagers, des personnes en situation d'handicap, des associations. Se sont mis ensemble pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire, cette loi-là. Puis, à la fin de la journée, quand ils sont arrivés avec les différentes normes, ben, évidemment, les gens de l'industrie trouvaient que c'était trop, et puis les personnes en situation de handicap trouvaient que c'était pas assez. Mmh. Mais faut pas oublier que la loi sur l'accessibilité, c'est une approche systémique, c'est pas une approche individuelle. Fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui regarde, on connaît bien le système d'accommodement, on connaît bien quand on a besoin de quelque chose, on fait une demande, on le reçoit, c'est immédiat, c'est réactif. Mais c'est aussi provisoire. Alors que quand on regarde une politique, j'ai travaillé 10 ans comme conseillère, comme chef d'un service d'accessibilité, justement, dans une université, l'université ici. Tout ce qu'on faisait, c'était toujours à recommencer. Je travaillais avec des personnes en situation de handicap. Alors que là, je ne travaille pas avec des personnes en situation de handicap. Je travaille avec une institution qui a des handicaps. Et c'est vraiment avec l'institution où on doit identifier chaque obstacle, chaque barrière au niveau des communications, au niveau des approvisionnements, au niveau de l'emploi, au niveau du site web, au niveau de la construction. C'est immense, c'est titanesque le travail qu'il y a à faire. Alors, faire un pas dans tous ces domaines-là, l'impact, on le voit pas immédiat, pas comme un accommodement où est-ce qu'on le voit immédiatement. Ça, c'est des changements de longue haleine et systémiques. Alors, c'est pour ça que est-ce qu'on voit les changements? Oui, on en voit des changements, puis je vais vous en donner sûrement des.
Oui, bien, ça fait déjà quand même 10 ans, là. Elle a quand même 10 ans, cette loi-là.
Elle a 10 ans, et l'objectif, c'est de rendre la province accessible d'ici 2025. Mmh. Je ne sais pas comment ça va par chez vous, mais des changements, les gens résistent. C'est tout à fait normal. L'industrie, les gens ont peur que ça coûte cher. Puis, d'expérience jusqu'à maintenant, les systèmes sur lesquels on a travaillé beaucoup, par exemple le site web, c'est immense. Il y a des millions de pages sur un site web. De dire, OK, on a un site web accessible, il faut d'abord avoir une plateforme accessible. On ne travaille pas sur des sites qu'on n'a pas de chance d'avoir de plateforme accessible. Alors, c'est très long. Une fois qu'on a la plateforme accessible, ben, faut s'assurer qu'on met pas des documents sur le site qui sont des PDF accessibles. Et bon, on connaît l'histoire. Donc, ça veut dire former les gens, c'est d'amener des niveaux de connaissances qui n'ont jamais été atteintes auparavant. Fait que Fait que c'est pour ça que c'est long, c'est lent, c'est jamais assez vite quand on attend, mais quand on voit les changements systémiques, l'accessibilité dans l'agenda de tous les directeurs, tous les doyens à l'université, il y en a qui sont un peu moins rapides et d'autres qui sont excellents à amener les changements nécessaires.
On vous demandera pas de nommer des noms. Laurence, avez-vous une question?
Des initiales seulement.
Laurence?
Moi, j'aurais une question par rapport à l'éducation. On parle d'accessibilité oui. plutôt des lieux et tout ça, et des sites web, mais au niveau de l'éducation, au niveau, vous avez travaillé à l'université, vous dites, donc, est-ce que les accommodements, c'est facile pour les étudiants en situation de handicap de les revendiquer ou ils se retrouvent devant un mur? Est-ce que l'accessibilité est non seulement une loi, mais est devenue une façon de penser?
On parle de deux lois différentes. Les droits de la personne, la loi qui chapeaute les accommodements, c'est le Code des droits de la personne. Alors que là, ça, c'est une autre, la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, adresse pas la même question. Les deux sont complémentaires. Alors, toute la question des accommodements, l'Ontario est assez championne au Canada par rapport à ça. C'est la province qui a investi le plus d'argent pour les accommodements. Alors, pour ce qui est de la revendication ou toute la question des accommodements, moi, je n'y touche pas parce que ce n'est pas c'est pas la même loi. La FAU, ce qu'elle fait, c'est enlever les obstacles pour éventuellement réduire le besoin d'accommodement, ce qui est tout à fait l'idéal. Quand on aura, par exemple, l'obligation, les professeurs sont obligés de fournir du matériel accessible. On sait très bien qu'ils ne le font pas toujours, mais la bibliothèque, le service d'accès, le service de transcription va fournir le matériel en format accessible beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Ouais. Alors, les normes sont beaucoup plus élevées parce que dans nos systèmes, dans notre capacité de produire des documents et dans notre connaissance, je disais tout à l'heure, on se forme à créer des documents Word, PDF accessibles, ben, ça veut dire que ça accélère la rapidité à laquelle, par exemple, les professeurs vont pouvoir fournir du matériel. Mm-hmm. Un autre exemple bien, bien précis, la production de syllabus, qui est le premier document que tout le monde reçoit, va être maintenant électronique et accessible à partir de Blackboard Learn, qui est un système auquel qui est utilisé par les professeurs pour circuler l'information. C'est tout à fait phénoménal. Je veux dire, il y a 10 ans, on transcrivait encore il y a un an, on transcrivait, fallait transcrire dans des formats alternatifs des syllabus, alors qu'aujourd'hui, on parle de syllabus accessibles en ligne, ouais. Des listes de lecture pour remplacer les course packs qui étaient absolument affreux. Maintenant, on s'en va vraiment. C'est pas 100% des profs qui adhèrent à ça, mais le nombre est de plus en plus grand parce qu'ils s'aperçoivent que ça a du bon sens pour tout le monde. Tout le monde bénéficie à ça.
Je reviens à cette loi cadre, Yolaine Ruel. Est-ce qu'elle est étapiste? Est-ce qu'on se dit, bon, ben là, parce qu'il y a des millions de pages, disons, pour un site web ou pour un bâtiment ou pour rendre tous les services accessibles d'une entreprise, on doit d'abord avoir converti 30% pour 2015, 60% pour 2020, ou bien c'est tout ou rien en 2025, on vous tape sur les doigts si c'est pas complété.
Non, absolument pas. La loi, elle est très étapiste, en effet, même que c'est un des reproches qui lui est fait, parce que les dates et ce qu'il y a à faire va dépendre de la dimension de l'organisation, si elle est publique ou privée. Mais, chose certaine, le gouvernement provincial et les grandes organisations, on a été les premières à devoir se conformer. Elle est étapiste dans le sens où la première norme à avoir été adoptée en 2010 pour les grandes organisations. Nous, on est obligés de se conformer. C'était pour le service à la clientèle. Alors, une des premières choses à faire, c'était de prendre la formation. Comment interagir avec une personne en situation d'handicap? Ouais. Comment agir en présence d'une personne de soutien? Quoi faire avec un animal d'assistance? Des choses bien simples. Comment marcher avec une personne aveugle? Mm-hmm. C'était tout simplement le B.A.B.A.
Ouais,
c'était une formation obligatoire à toute personne à l'université qui interagit avec quelqu'un d'autre. Bref, toute organisation, les commerces, les 350 000 organisations que vous avez nommées tout à l'heure doivent avoir la formation sur le service à la clientèle. Alors, c'est pas rien. C'est pas peut-être pas la formation la plus excitante de votre vie, mais on parle d'une connaissance élémentaire de base que tout le monde doit avoir en Ontario. Alors, ça, c'était la première norme, service à la clientèle, où on exigeait d'avoir des politiques, etc. La deuxième à avoir été adoptée, ça a été la norme d'accessibilité d'information et communication. Alors, obliger tout le monde à avoir un processus de rétroaction, de feedback sur l'accessibilité de leurs services. Les mesures d'urgence doivent être dans un format accessible et remises à tout le monde en personne. Production de matériel didactique, formation aux éducateurs depuis l'année dernière. Tout éducateur doit être formé sur l'inclusion dans une salle de classe.
Je suis obligé de vous interrompre, Yolaine, mais en terminant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne répond pas aux échéanciers, lorsqu'on ne les rencontre pas?
La loi n'est pas punie. L'objectif de la loi, c'est que les gens respectent les normes d'accessibilité pour être inclusifs pour tout le monde. Ça, c'est l'objectif de la loi. Il y a des pénalités qui viennent. On n'a pas vu d'institution encore se faire pénaliser. Par contre, quand une organisation, on a des dates limites. On a besoin de présenter un plan. Si, par exemple, le site web, on change pas 1 million de pages en 3 jours, si le site web est pas accessible, pourvu qu'on ait un plan, puis on sait exactement à quel moment donné on va être accessible. Les organisations sont vérifiées. Je sais qu'une collègue au Collège Algonquin ici avait 30 jours pour répondre aux questions du gouvernement. Et à un moment donné, il y aura des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $ par jour, par organisation, une grande organisation qui ne se conforme pas. Mais ça m'étonnerait qu'on se rende là. Ça, ce serait vraiment pour une organisation qui dit, nous, on veut rien savoir, on veut rien changer. Mais l'objectif, ce n'est pas de punir, l'objectif, c'est de soutenir. Alors, puis de mettre les organisations ensemble, les associations professionnelles, pour vraiment travailler dans la résolution de problèmes, vraiment partager les meilleures pratiques. Et c'est ça qu'on voit arriver, puis c'est ça qui est le plus beau de la loi.
Yolaine Ruel...
assez, mais... Ça s'en va dans la bonne direction.
En tout cas, on a votre numéro de téléphone et on le garde parce que je ne serais pas surpris qu'il y ait des organismes qui vont vouloir vous inviter pour passer un après-midi à nous expliquer ce qu'est une loi cadre, parce qu'au Québec, il y a comme un mouvement, disons une vague qui est encore vaguette, mais qu'on espère provoquer en vague, en raz-de-marée, en tsunami et que sais-je. Et pour ça, ça prend de la formation. Il faut expliquer aux gens les bénéfices d'une telle loi et ensuite le manque à gagner pour nous, ici, Québécois, de ne pas en avoir. Yolaine Ruel...
Ça va me faire plaisir de soutenir n'importe quelle initiative dans ce sens-là.
Elle est conseillère principale des politiques d'accessibilité à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup, Yolaine.
Merci.